La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le jeudi 12 mars et il y a quelques jours, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un prospectus de campagne pour le candidat macroniste de ma commune, Asnières. Il y avait écrit « La mairie, dernier rempart dans une France en crise ». Et comment dire, ça m'a mis en rage. C'est vrai que face à des personnes SDF qui vivent dans leur voiture, sans travail et avec des gros problèmes de santé, la mairie macroniste qui prône le mandat, son mandat sur la sécurité, la protection et la baisse des impôts à tout prix, c'est vraiment le dernier rempart dans une France en crise. J'avais envie de lui dire, mais fous-toi un stylo dans le cul avant de dire des conneries pareilles. Je trouve ça fou que moi, tous les jours, je parle à des personnes qui n'ont ni travail, ni vie sociale, vivent dans des centres d'hébergement. Et lui, il se dit, la France en crise, c'est des cadres de la défense qui se posent la question de, est-ce qu'il y a assez de flics dans ma ville? Est-ce que je vais partir plutôt à Chamonix ou à Ibiza aux prochaines vacances? Les actions, les prises de parole des personnalités politiques macronistes, elles ne sont pas fausses, elles sont hors des réalités. Parce que oui, il y a des cadres de la défense qui vivent à Asnières, mais il n'y a pas que ça. Et puis c'est pas des problèmes majeurs dans une France en crise que de s'interroger sur la destination de tes prochaines vacances. Donc non, la mairie macroniste n'est pas le dernier rempart dans une France en crise. Et si vous pensez à l'inverse, bah, repensez au stylo, vous en remercierez. Au programme de ce soir, dans le premier Zoom, Vladimir reçoit Pierre-Paul Zaliot, président du festival Printemps des Humanités. Dans le deuxième Zoom, Justine reçoit Sophie Poiré, chargée de communication de La Place pour la convention L2P. Le Flash Info sera présenté par Fabien. Thomas nous parlera des intentions de vote des communautés LGBT aux élections dans sa chronique Actu. Anna nous parlera de la création du patriarcat dans sa chronique Libre. Vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM en Ile-de-France et on passe tout de suite au premier Zoom.
La matinale de 19h.
Et on reçoit tout de suite Pierre-Paul Zaliot avec Vladimir.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Pierre-Paul Zaliot, vous êtes président du campus Condorcet à Aubervilliers et ce soir on va parler du festival que vous organisez les jeudis 19 au samedi 21 mars 2026 au campus Condorcet, le festival du Printemps des Humanités. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Ah, je vous entends très bien et je dis bonsoir à toutes et tous, à tous vos auditeurs.
C'est parfait, je suis sûr qu'il vous le dit aussi. On a 15 minutes ensemble, on va aborder un peu tout ce beau festival que vous organisez, le Festival du Printemps des Humanités. Mais du coup, d'abord, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur où ça se passe, le campus Condorcet. Donc vous êtes président de ce campus Condorcet, ça a été créé en 2008 de la coopération entre plusieurs universités. Ça se situe à Aubervilliers, pas loin de la Porte de la Chapelle, et c'est un campus qui est spécialisé en recherche en sciences humaines et sociales et qui décrit en tout cas ses activités pour répondre aux défis pédagogiques, scientifiques et numériques du 21e siècle. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu l'origine, la vision et le principe de ce campus Condorcet ?
Bah, vous savez, il y a des universités à Paris qui avaient beaucoup besoin de surface, d'autres lieux pour se développer, et elles ont eu envie ensemble de construire un campus nouveau. Alors, ces établissements, je vais les énumérer parce que je suis sûr que parmi vos auditeurs, il y a des gens qui les connaissent et qui les fréquentent. Il y a l'École des hautes études en sciences sociales, il y a l'Université Paris 1, il y a l'Université Paris 3, l'Université Paris 8, l'Université Paris Nanterre, l'Université Sorbonne Paris Nord, l'École des chartes, l'École pratique des hautes études, l'Institut national d'études démographiques, la Fondation Maison des sciences de l'homme et puis le CNRS, qui est le grand organisme de recherche en France.
Ça fait du monde.
11 établissements. Oui, ça fait du monde. Ces 11 établissements, ils ont voulu avoir un campus nouveau et ils vous ont voulu y mettre leur recherche en sciences humaines et sociales, mais aussi leur formation, puisque nous avons beaucoup d'étudiants de master. Vous m'avez dit, ça fait du monde. Oui, ça fait à peu près 12 000 personnes dans la journée qui vont et viennent. Ça fait quelques milliers d'étudiants, notamment en master, pas mal en doctorat. et puis une centaine de ce qu'on appellerait des structures de recherche. Ça va des petits laboratoires aux grands équipements. Et puis au milieu, il y a une très belle bibliothèque de recherche et centre d'archives où on peut travailler tout ce qui concerne la recherche dans le domaine des humanités, des sciences sociales. Voilà.
Alors quand vous définissez, quand vous parlez d'humanité et de sciences sociales, comment est-ce que vous pourriez définir un peu ce champ de recherche spécifique ?
Bah écoutez, si je vous prenais un exemple à partir de ce que nous avons dans nos archives, ça va de gens qui travaillent sur les tablettes cunéiformes de la Mésopotamie, l'archéologie, les études de langues rares, le monde iranien, le monde tibétain, le monde chinois, japonais, le monde des Amériques, l'Institut des Amériques, des hautes études de l'Amérique latine se trouve sur le campus. Ça va aussi jusqu'à la géographie, la science politique, la sociologie, l'histoire. Donc toutes les disciplines qui s'appellent dans nos universités les sciences humaines et sociales.
Donc toutes ces disciplines qui se rassemblent sur ce grand campus Condorcet qui a été créé il y a peu de temps, qui se veut du coup un grand campus moderne pour répondre un peu aux grandes questions scientifiques des sciences sociales du 21e siècle. Et dans ce cadre-là, vous organisez depuis 2024 un festival qui s'appelle le Festival du Printemps des Humanités, donc qui est un grand festival de rencontres entre les sciences sociales et la culture, qui veut, je cite, « mettre en lumière l'ancrage des sciences humaines et sociales dans la cité » et qui veut mettre en dialogue la recherche académique avec d'autres formes de création, de savoir et de pratique dans un esprit festif, participatif et ouvert à l'expérimentation de formats novateurs. Donc c'est un festival qui a, je pense, une volonté de vulgarisation. Est-ce que vous pouvez dire d'où vient l'envie de créer ce festival des Printemps des Humanités à partir de 2024 ?
Alors vous avez presque tout dit, mais au fond il y a trois attentes qui sont à l'origine de ce festival. La première, je pense que c'est le désir des professeurs, des chercheurs, de tous ceux qui travaillent sur le campus, de partager leurs connaissances, les savoirs, tout ce que les sciences humaines et sociales produisent. Et d'autant plus envie de le partager que ce sont des sujets qui intéressent tout le monde. Enfin, ici, on travaille sur la famille, on travaille sur les inégalités, sur les migrations, sur les rapports géopolitiques, sur l'histoire du monde contemporain. Enfin, donc, ce sont des sujets qui intéressent vraiment, vraiment tout le monde. La deuxième chose, c'est que je crois que ça répondait aussi à une demande qui est que dans la société française, il y a un grand intérêt pour les sciences humaines et sociales. On le voit dans le secteur de l'édition, où il y a beaucoup d'ouvrages, de nouvelles revues. C'est pas le seul festival qui existe dans ce domaine. Si vous pensez par exemple au festival de Blois pour l'histoire, ou au festival de Saint-Dié pour la géographie. Donc il y avait un espace pour proposer et répondre à cette demande en proposant un festival. Mais c'est aussi une troisième volonté, puisque vous avez rappelé qu'il y avait des formats différents, puisqu'il y a du théâtre, il y a des ateliers participatifs, il y a des projections débats, il y a des conférences, il y a des expositions. Il y a aussi la volonté de créer un espace qui soit en même temps joyeux, un peu sérieux, parce qu'on parle de choses sérieuses, mais essentiellement joyeux et de débats et de controverses, pour que aussi les premiers concernés sur les études des sciences humaines et sociales, les premiers concernés, bah, c'est tout le monde, c'est tous les citoyens, puissent venir aussi apporter leurs propres paroles, leurs propres questions et venir échanger. Et c'est la troisième année qu'on organise ce festival. Juste pour donner une petite idée, la première édition portait sur les enjeux de la santé. On était un peu dans le post-Covid, enfin il y avait quand même de bonnes raisons de faire ça, ça, c'est le thème s'appelait « Prendre soin ». L'an dernier, on avait un thème qui portait sur les universels, donc on a parlé de questions post-coloniales, de restitution, de conception de l'universalité, voilà. Et cette année, on parle du travail.
Donc il y a une volonté, j'imagine aussi un peu politique de la part de ce festival, de réussir à rendre accessibles des sciences sociales qui sont parfois médiatiquement un peu malmenées. On peut se souvenir de mots de certains anciens ministres de l'Intérieur, justement sur le fait que la sociologie tentait d'excuser certains comportements problématiques, alors qu'en réalité la sociologie, comme toutes les sciences sociales, essaye de comprendre et d'expliquer. Est-ce qu'il y a une volonté un peu politique justement à travers ça, de rendre ce festival-là et ces questions complexes accessible à tout le monde pour que tout le monde se les approprie?
Alors, je ne sais pas si c'est un acte politique. D'une certaine manière, au sens large, c'est un acte politique de partager la connaissance, puisque nous vivons dans une république dont l'idéal, c'est, il suffit de lire la Constitution française, c'est que la connaissance est en quelque sorte une façon de s'émanciper. Et la connaissance sur le social, évidemment, fait partie de ces connaissances. Donc, c'est une réponse, d'une certaine manière, à cette critique. C'est aussi une manière en acte de partager le savoir et la connaissance avec les citoyens, de faire ce qu'on appelle un lieu de débat inclusif, ouvert, libre. Et effectivement, ce qu'on défend sur un campus de recherche, c'est que nous produisons des connaissances. C'est le produit d'un travail scientifique, d'un travail de recherche. Mais en même temps, on peut avoir un moment, un temps, un lieu pour partager toute cette connaissance et qu'elle soit ensuite utilisée par tous ceux qui viennent la partager avec nous. Et la manière dont ils vont l'utiliser, ça évidemment, ça les regarde, mais ça peut contribuer à leur prise de conscience sur des tas de sujets qui sont des sujets, pour certains d'entre eux, politiques.
Et ben justement, du coup, le sujet, venons-en au sujet de l'édition de cette année-là. Pourquoi travailler? Point d'interrogation, c'est le sujet de cette édition qui se présente sous ces mots. Pourquoi travailler? Pour qui et comment peut-on encore imaginer un avenir du travail qui ne soit ni résignation ni simple prolongement du modèle actuel, mais un projet à repenser collectivement à l'aune des défis sociaux, écologiques et démocratiques qui nous concernent tous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'idée derrière cette thématique annuelle du Festival du Printemps des Humanités?
Alors, je peux l'expliquer, mais je suis sûr que tous vos auditeurs la comprennent immédiatement, parce que j'ai la chance de m'exprimer sur Radio Campus Paris. Donc c'est, j'imagine, une radio qui a, disons, des auditeurs jeunes, étudiants, engagés. Et la question du sens qu'a le travail, la question qu'a du sens qu'a l'engagement dans le travail, je pense que c'est une question qui parle à tout le monde. On est quand même parti de là. C'est-à-dire qu'on voit que l'institution du travail, à travers le salariat, à travers l'emploi, c'est plus une évidence. Donc, ça nous permet de réinterroger cette notion qui est très importante pour les sciences sociales. Alors, pourquoi elle est importante pour les sciences sociales? Parce que les sciences sociales ont été les premières à étudier le travail ouvrier, à étudier le salariat, à étudier également les nouvelles modalités du travail dans les organisations, à étudier aussi l'institution du travail, les relations professionnelles, les relations entre les syndicats de patrons et de salariés, mais aussi la période actuelle, qui est une période sensible, difficile, puisque c'est une période de désinstitutionnalisation du travail, où beaucoup de personnes sont engagées dans un moment où on va leur demander de porter des responsabilités et de l'autonomie au travail, où on va mettre en question le salariat au profit de l'ubérisation, ce qu'on appelle le travail de plateforme. Bon, il suffit de regarder dans la rue qui sont les livreurs, par exemple, pour s'apercevoir ce que ça veut dire. Donc, je pense que voilà ce qu'on a voulu faire en choisissant ce thème. C'est de se placer à un moment qui est un moment de crise du sens du travail, aussi un moment de remise en question de l'état social tel qu'il existe en France. On le voit dans le débat sur la retraite, on le voit dans le débat sur l'indemnisation du chômage. Donc de reprendre toutes ces questions et de les reprendre dans un dialogue entre la recherche et les citoyens. Avec en même temps des moments où on peut parler de tout ça et en même temps en parler, disons, un peu joyeusement. Donc il y a aussi des soirées, il y a aussi des concerts. Quand on parle par exemple de la condition ouvrière en Chine, au Japon, en France, ben, on fait une pièce de théâtre et cette pièce de théâtre, on peut aller l'entendre durant ces 3 jours. S'appelle oui. Petite Main.
C'est voilà, ça, oui, justement. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a quelques petites minutes pour justement revenir sur cette programmation qui est justement très riche entre la configuration, enfin, entre, par exemple, un entretien que vous allez avoir avec Sophie Binet sur le travail et syndicalisme et droits sociaux du jeudi 19 mars. On a vu le spectacle Petite Main, justement, qui parle de la condition ouvrière en Chine aussi, des questions autour de l'IA et ce qu'elle fait au travail. Est-ce que vous avez des événements ou des rencontres particulières que vous voulez mettre en valeur pour montrer la pluralité de toutes les actions que vous proposez et de toutes les conférences que vous proposez autour du travail?
Alors, en plus de ce que vous avez dit, qui est déjà très important, on a des moments de rencontre avec des personnalités exceptionnelles et je crois très intéressantes à entendre. Et en plus, c'est un moment où non seulement on les entend, mais en plus discuter, leur poser des questions. La conférence inaugurale sera donnée par Alain Supiot, qui est un professeur du Collège de France, qui a travaillé, qui est un professeur d'histoire du droit et de droit, et qui a travaillé sur le travail et sur l'invention en quelque sorte de l'état social. Donc je pense que ça sera un moment fort. On aura aussi un moment d'entretien avec Dominique Méda, qui est sociologue et qui sera un entretien modéré par Libération. Dominique Méda est quelqu'un qui s'interroge régulièrement. Elle a écrit un livre qui avait fait date il y a quelques années, qui s'appelait « La fin du travail ». Et aujourd'hui, elle travaille sur le rapport entre travail et écologie. On aura aussi Bruno Palier de Sciences Po qui viendra dialoguer avec Gilles Gâteau, qui est le président de l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres. Ce qui est très intéressant aussi, et je pense à votre public, au public étudiant, qui j'espère viendra nombreux, puisque c'est l'occasion aussi de voir dans ce dialogue comment on peut travailler autrement et quelles sont les attentes pour travailler autrement. Et puis pour ajouter un autre élément par rapport à outre ceux que vous avez cités, on a aussi beaucoup de moments de discussion sur de nouvelles formes de travail, de nouvelles formes de façon de s'engager dans le travail. On aura notamment plusieurs tables rondes sur l'économie sociale et solidaire, sur le mouvement coopératif. Il y aura la présence de fondations comme la France s'engage qui viendront animer avec le département de Seine-Saint-Denis un débat sur l'économie sociale et solidaire. Et pour prendre un tout autre exemple, puisqu'il y a des événements de toute taille et de toutes sortes, il y aura aussi une table ronde sur les nouvelles formes du travail en milieu rural, par exemple, à partir d'une enquête menée en Lozère. Donc vous voyez qu'on va vraiment parcourir l'espace social un peu de bout en bout, avec différents types d'acteurs et avec différents types d'expériences.
Bah, c'est un programme très riche, très complet, qui donne envie d'y aller. Merci d'avoir avec nous. Je tiens à préciser que Radio Campus est partenaire de cet événement. Il y aura le samedi 21 mars, une émission spéciale, un atelier radio immersif qui invitera à comprendre le travail en prison, derrière les murs. Et donc du coup, j'invite tout le monde à aller sur le site du Festival du Printemps des Humanités pour découvrir tout ça et venir au programme. Donc ça sera le jeudi 19 au samedi 21 mars 2026. Merci beaucoup Pierre-Paul Zalio d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, et c'est très facile de venir, métro Front Populaire, ligne 12, absolument aucune complication pour personne, donc vous êtes tous et toutes les bienvenus.
Eh bien on y sera, merci encore à vous, bonne soirée.
Et merci beaucoup à Pierre-Paul Zalio d'être venu au micro de Radio Campus. On va se laisser avec une petite pause musicale, on va écouter The Madness and the Damage Done de Shining.
Myself, a bloodstain, my blood on a basket, I'll never forget the pain. The same old, hurting game, fear of the whole world.
J'espère que vous n'êtes pas endormis durant cette musique. Vous avez écouté The Madness and the Damage Done de Shining. Et c'est l'heure de la matinale.
Le flash info de la matinale de 19h.
Fabien, c'est à toi.
Bonjour, et on commence avec la France. Une bonne nouvelle pour le portefeuille des automobilistes. Après le contrôle de plus de 500 stations-service et l'annonce de la libération de stocks stratégiques, les distributeurs de carburant ont annoncé des plafonnements de prix et des baisses allant de 10 à 30 centimes par litre. Bercy a par ailleurs affirmé travailler pour réduire les marges de raffinage, même si ce levier d'action n'a pas été l'objet de cette réunion. France toujours, dernière ligne droite dans la bataille de Paris, dont l'issue est imprévisible. La campagne entre dans sa dernière semaine avant les élections municipales, dont le premier tour se déroule dimanche 15 mars prochain. Dans la capitale, deux candidats distancent les autres au premier tour. Emmanuel Grégoire, qui réunit toute la gauche sauf LFI, et Rachida Dati, soutenue par LR et le Modem. Dans la capitale, jusqu'à 5 candidats peuvent être qualifiés pour le second tour. États-Unis. Les États-Unis face au spectre d'une guerre sans fin contre l'Iran. Donald Trump a multiplié les déclarations contradictoires. Le conflit risque de déstabiliser un peu plus le Moyen-Orient. Un enlisement du conflit poserait aussi la question de la crédibilité et la validité des garanties de sécurité américaines pour les États de la région. États-Unis-Europe. La Maison-Blanche a annoncé le lancement d'une série d'enquêtes destinées à documenter des préjudices économiques subis par les États-Unis, une première étape vers de potentiels nouveaux droits de douane. L'Union européenne réagira avec fermeté à toute violation par les États-Unis de l'accord commercial conclu en 2025. Et enfin, pour terminer, sport. Jeux paralympiques 2026, le fondeur Karl Tabouret, sacré sur le 10 km en style classique, 9e médaillé pour la France à Milan-Cortina. L'athlète tricolore de 22 ans s'est offert sa première médaille paralympique mercredi à Tessero. Il a su effacer la déception de ses épreuves en biathlon et de sa cruelle élimination en demi-finale en paraski de fond sur son sprint la veille.
Merci Fabien pour ce flash info et tout de suite c'est l'heure de la chronique actu de Thomas. Tu nous parles de quoi ?
Et oui, encore une chronique d'actu pour vous parler des élections. Alors réservez bien vos dimanches 15 et 22 mars, car après la gueule de bois du samedi soir, c'est devant les urnes des municipales qu'il faudra s'empêcher de vomir. Donc pour moi, les élections, c'est un peu une Madeleine de Proust. Quand j'étais gosse dans mon petit village de Lain, dédicace à Franc, j'adorais les élections parce qu'à la sortie de l'école, il y avait ces fameux panneaux métalliques avec les jolies affiches de campagne. Et comme dans l'Ain, il n'y a pas grand-chose de marquant hormis la fête foraine une fois par an. Des affiches toutes neuves, c'est votre shot d'adrénaline pour les mois à venir. Après, les municipales, c'était les moins drôles parce qu'il n'y avait qu'une liste faite des gens que tu croisais tout le temps au bar du village, mais toujours mieux que rien. Alors depuis l'école primaire, pour moi, il y a eu du changement au niveau des élections. Petit, je trouvais que les affiches bleues étaient quand même très chouettes parce que les gens étaient bien mieux habillés que sur les affiches rouges. Et en plus, comme j'étais un garçon, on m'avait fait comprendre qu'il fallait bien aimer le bleu, sinon tu étais un peu PEDE. Bon, manque de bol pour le gosse réactionnaire que j'étais, même si j'aime bien le bleu, je suis quand même devenu PD. Alors, au placard, les affiches bleues, il faut voter à gauche aux élections pour survivre. Enfin ça, c'est ce que je me suis dit. Mais tous les gens comme moi ne fonctionnent pas comme ça, et c'est Têtu qui m'a appris ça. Têtu, c'est un média LGBT, donc le magazine que j'évitais soigneusement de zioter au kiosque quand j'allais à la ville avec mes parents. Et mardi, ils ont sorti un petit article sympa, « Les intentions de vote des LGBT ». Donc moi, curieux, j'espérais trouver quelque chose sur les municipales, mais non, Têtu a vu plus loin que ça et a missionné l'IFOP pour voir à quoi ressembleront les élections présidentielles en 2027 sous l'arc-en-ciel. Et à ma grande surprise, sous cet arc-en-ciel, on trouve beaucoup de rouge, beaucoup de bleu et du bleu très foncé. En 2017, c'est Emmanuel Macron qui avait séduit les électeuristes LGBT, 28% de l'électorat queer à l'époque contre 22% en 2022. Aujourd'hui, ses héritiers Édouard Philippe et Gabriel Attal ne cumulent que 17% des intentions de vote, ce qui est quand même vachement comique pour ce dernier. Les homosexuels seraient homophobes envers Gabriel Attal, vous avez 2 heures. Et quand le macronisme dort, les extrêmes dansent. La gauche radicale culmine à 29% des intentions de vote LGBT, l'extrême droite domine avec 32% et moi, je fulmine. Je fulmine parce que certes, face aux 42% de la population générale penchant extrême droite, les LGBT sont meilleurs élèves. Mais bon, savoir que 27% de la communauté se dirige vers Bardella, ça donne un peu le vertige. Du coup, vraiment juste comme ça, je propose un petit inventaire queer des votes au Parlement européen de notre ami Jordan Bardepala, sobriquet Mims de la part de ses collègues eurodéputés, vu qu'il est pas souvent là. Vote sur la résolution contre les discours de haine envers les personnes LGBT dans l'Union européenne, contre. Vote sur la résolution en faveur des droits des personnes LGBT+, dans l'Union européenne, contre. Vote sur la résolution législative sur les sujets de parentalité, contre. Vote sur la mise en œuvre de la stratégie LGBTQIA+ de l'Union européenne. Contre. Vote sur la résolution contre la condamnation à mort de l'homosexualité en Ouganda. Abstention. Si on revient en France, on trouve toujours sur le site du RN des beaux communiqués de presse de 2012 rappelant leur opposition au mariage homosexuel et à l'adoption pour les couples concernés. Mais bon, comme peut-être depuis le changement de nom, ils n'ont pas eu trop le temps de faire du ménage sur leur site, on va rien dire. Alors qu'on s'entende, l'IFOP n'a pas sondé chaque LGBT de France, évidemment, en tout cas moi pas, ce n'est pas une science exacte. Mais finalement, en lisant tout ça, moi je vous demande, est-ce que voter RN, quand on va à la Pride en résille et paillettes, ce n'est pas un peu voter contre son camp? Eh bien, pour citer ma mamie sur Facebook, à méditer.
Merci Thomas pour cette chronique politique et queer, on va dire.
Et pleine de paillettes.
Et pleine de paillettes, mettons des paillettes dans nos vies. Tout de suite, on va écouter Stallbat Blues de High Monster.
Yeah.
a des chansons très éclectiques ce soir. Merci à O2 qui nous a choisi ces musiques. Vous avez écouté Stobart's Blues de High Monster. C'est toujours Radio Campus Paris et l'émission La Matinale.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Justine, ce soir, tu reçois Sophie Poiré, qui est responsable partenariat et communication pour La Place. Vous nous parlez de la convention L2P. Je te laisse la parole.
Mais oui, bonjour Sophie. Bah, c'est un plaisir de vous recevoir à la matinale de 19h. Donc, c'est bien vous qui êtes en charge de la communication et des partenariats à La Place. La Place qui est donc un centre culturel hip-hop à Paris qui organise en ce moment même, du 11 au 14 mars, la L2P Convention, convention professionnelle dédiée au hip-hop et à la street culture. Est-ce que Sophie, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que la L2P existe ? À quel besoin est-ce que cette conférence répond et à qui elle s'adresse ?
Oui, tout à fait. Bah, déjà, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être ici. La L2P Convention, c'est un événement qu'on a créé à La Place il y a 6 ans. C'est la 6e édition. Et c'est un événement qui est grand public et qui rassemble plusieurs centaines de professionnels de la culture, que ce soit en danse, en art visuel, en musique. Et le but, c'est d'échanger, de créer des tables rondes, des talks, des conférences autour de tous les sujets qui traversent cette culture et toutes ces esthétiques. Donc c'est aussi bien à destination des jeunes qui veulent recevoir des conseils, même il y a une part de formation, puisqu'on est vraiment parfois sur des talks qui parlent des industries, de l'industrie musicale par exemple. Mais c'est aussi pour les passionnés, c'est aussi pour les curieux qui veulent en savoir plus sur cette culture. On veut que ce soit vraiment un événement grand public où tout le monde s'y retrouve. Voilà.
Et toutes les personnes donc, qui vont être intéressées ou même curieux de la culture hip-hop. Et d'ailleurs, la culture hip-hop, elle existe, vous l'avez dit, à travers la musique et la danse, bien sûr, mais aussi à travers la mode, les arts visuels, l'entrepreneuriat. Et là, quels domaines seront représentés pendant la convention ?
Nous, le but, c'est de représenter un maximum de domaines possibles. La danse, c'est sûr, la musique, les arts visuels, donc à travers, je disais, des conférences, mais aussi des workshops. Il y a aussi des formats sur l'entrepreneuriat culturel, par exemple, sur la structuration en région, sur il y a aussi des sujets plus de société, d'actualité. Il y a un talk qui se passe en ce moment même sur les VSS dans la musique. On a aussi cherché à représenter les créatifs et la mode et tout ce qui touche à cela avec un corner spécial créateur et créatrice dans lequel on a des photographes, une créatrice de nail art aussi et de bijoux dentaires. Voilà, il y a un espace networking dans lequel on accueille aussi des structures comme 33 Carats, comme Mosaïque, donc des médias qui ont créé des magazines qui font un travail de journalistique de fond aussi. Ils sont aussi aux côtés de la SACEM, par exemple, du CNM, de Buzz Booster, des formations d'Issoudun. Donc voilà un peu tous les domaines qui se rassemblent sur cette convention.
Ça en fait des domaines et je pense que tout le monde peut trouver quelque chose qui l'intéresse pendant cette édition. Cette édition qui est donc la 6e depuis 2021, c'est la 6e année. Est-ce qu'il y a un point de focus cette année qui diffère des autres ?
Je ne sais pas s'il y a un point de focus. Je pense quand même que le sujet... des sujets qui touchent particulièrement les femmes sont particulièrement représentés cette année avec la conférence sur les VSS dont je parlais. Il y a aussi Mewem qui avait une conférence cet après-midi donc autour de ce réseau de mentorat pour les femmes dans les industries musicales et créatives. On a aussi un talk samedi sur rap et parentalité. Donc il y a aussi des hommes sur ce talk, Medine et Thury. Il y a ce sujet-là aussi qui touche d'une manière particulière les femmes qui doivent allier carrière et la maternité. Donc je pense que ouais, il y a quand même ce fil conducteur là qui est pas mal présent sur cette édition.
Oui, et donc en fait, je remarque aussi qu'il y a la conversation sur la carrière et donc les artistes en tant que professionnels, mais aussi les entrepreneurs dans la culture. Et actuellement, les entrepreneurs dans la culture et les différentes entreprises font face à beaucoup de coupes budgétaires ou d'incertitudes pour les financements publics par rapport à leurs initiatives. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont mises en avant au cours de la L2P Convention qui peuvent encourager nos artistes et encourager les collectifs dans le hip-hop et la street culture ?
Alors, déjà, on cherche à créer une émulation et des connexions et du networking justement pour ça aussi, pour que les personnes qui entreprennent et qui ont des projets naissants puissent venir rencontrer d'autres professionnels, puissent venir aussi échanger, trouver du conseil, trouver de la solidarité aussi. À la place, on est aussi porteur d'un projet de financement, d'appel à projet de financement de projet hip-hop qui se fait conjointement avec la mairie de Paris. Donc, on a lancé lors de la L2P la précédente édition l'année dernière. Mais voilà, j'en parle aussi parce que c'est un dispositif qui est reconduit et qui est aussi porté et soutenu par la place, donc avec des aides financières pour les projets hip-hop. Et on a aussi donc un ensemble de workshops. Demain, il y a un workshop à 16h en salle de concert sur l'entrepreneuriat culturel sur le bon statut pour activer ses financements. Donc c'est un workshop qu'on reconduit aussi, qui avait déjà eu lieu l'année dernière et qui est hyper plébiscité. Donc on sait que voilà, il y a aussi les personnes sont aussi demandeuses de voilà, de structuration et de conseils sur ce sujet-là. Et voilà.
Bah oui, et tout ne se passe pas uniquement à la place, donc il me semble. Quels sont les autres endroits, les autres partenaires où on peut aussi assister aux événements ?
Oui, tout à fait. On veut que notre événement rayonne et on veut aussi créer des partenariats avec d'autres structures culturelles pour les emmener avec nous sur ce projet. Et on a de la chance parce que beaucoup de structures répondent présentes. Il y a notamment FGO Barbara qui accueille plusieurs talks et un concert demain d'Ara, Onikira et Lynx IRL. On est aussi en partenariat avec la Gaîté Lyrique qui accueille plusieurs événements tout au long de la convention. Il y a également Freestyle Villette. Et puis j'en ai le Théâtre du Châtelet, voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi au Théâtre du Châtelet un format sur prévoir les violences sexuelles et sexistes dans la danse, samedi, donc pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur ce fil conducteur un peu de cette année. Et je me tourne vers Marie parce que j'ai peut-être oublié un lieu. J'ai dit Freestyle Villette, FGO Barbara, il y a le Point Fort d'Aubervilliers aussi cette année.
D'accord. Voilà. Oui, donc ça permet d'avoir justement différents endroits sur la carte où on peut aller suivre tous ces événements-là, ouais, et prendre des billets, ce qui me permet de poser la question sur la billetterie. La plupart des conventions professionnelles optent pour un ticket d'entrée générale pour une journée ou pour l'ensemble de la période, mais la L2P a toujours proposé une billetterie par événement. Là, il me semble que c'est entre gratuit et 12€. Pourquoi opter pour ce type de billetterie ?
C'était la meilleure solution pour rendre l'événement le plus accessible possible. Et c'est pour ça qu'on a créé ce système alors il y a une grande partie des formats qui sont gratuits. Et d'ailleurs, la L2P et l'espace networking, l'espace stand et l'espace créateur dont je parlais tout à l'heure, c'est accessible gratuitement.
Et ça, c'est à la place.
À la place, d'accord, tout à fait, à la place, au 10 passage de la canopée. et on a en effet la majeure partie des formats qui sont accessibles à partir de 3€. Donc, on dit que c'est un prix solidaire et que c'est 3€ ou plus si on veut soutenir l'événement, quoi. Mais c'était vraiment dans un but de rester hyper accessible. Voilà.
Et donc, on peut retrouver tous ces billets sur le site de Shotgun, c'est bien ça ?
Oui, la billetterie, c'est Shotgun. Et il y a un site l2pconvention.com sur lequel il y a toute la programmation.
D'accord. Voilà. Je me permets une dernière question, qu'il me reste un peu de temps. Parmi tous ces événements, là, on parle vraiment de concerts, de talks, de conférences, des workshops de danse, de beatmaking aussi, j'ai vu. C'est un sujet qui, moi, m'intéresse particulièrement. Mais vous, quel est, parmi tous ces événements, celui auquel vous avez le plus hâte d'assister ? personnellement?
Je pense que je vais essayer, si je peux, de regarder une bonne partie du talk Boss Lady, oui mais à quel prix, qui a lieu à 14h samedi,
okay.
Modéré par Anissa Rami. Et voilà, sur lequel il y a Laze notamment, qui est une artiste que je trouve, que, quand on parle de Boss Lady, je trouve que ça lui correspond bien. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir. Samedi, il y a un clubbing training aussi avec Antoinette Gomis à 17h à la place. Ça va être très très cool aussi. C'est un format mi-training de danse chorégraphié, mi-danse libre, okay. Clubbing, DJing. Enfin, ça va être trop bien.
Et Antoinette Gomis peut y aller. Enfin, tout le monde peut y assister, du coup. Il faut un niveau de danse.
Non, vraiment. Faut juste avoir envie de danser. Voilà. Non, franchement, c'est ouvert à tous. Justement, c'est ça qui est hyper cool dans ce format-là. Et ouais, donc ça, très cool samedi. Et puis, bah, ce soir, il y a un DJ set d'Andy 4000.
Ah ouais, voilà. Très bien.
Donc,
à quelle heure?
C'est à partir de 20h, là, juste après, on y va.
Donc en fait, si on raccroche les micros et on file, quoi.
Exactement.
Déhanché sur la piste de danse.
Voilà.
Bah, merci beaucoup, Sophie. Est-ce que vous pouvez nous redire où est-ce qu'on peut trouver les infos sur la L2P Convention, prendre les places et avoir les infos?
Ouais, donc on a un site l2pconvention.com. On a aussi un compte Instagram @L2P Convention. Voilà, n'hésitez pas à suivre ça, à suivre la place aussi, parce qu'au-delà de cet événement, on a une belle programmation toute l'année avec des conférences, des concerts, des expositions, des battles de danse. Donc franchement, c'est un très chouette lieu. Et voilà, venez.
Ça va être trop bien. Moi, j'ai trop envie de venir.
Trop c'est bien. Moi aussi. Hein. Moi,
de toute façon, on vous embarque après. Bon, nous, on est en scout, mais...
Ah ouais,
voilà.
Ouais.
Suivez-nous.
Il nous faudrait un bus, je crois.
Ouais. Pour avoir un bus Pour avoir un bus, Jeanne, pour avoir un bus pour
ouais,
aller...
Ouais, il y a moyen de...
Elle a l'air hyper enthousiaste, pas du tout. On n'a pas d'argent.
Elle n'a pas dit non.
Pourquoi pas. Bon, bah, merci beaucoup, Sophie, d'être revenue d'ailleurs à Radio Campus. Vous êtes déjà venue, vous m'avez dit.
Ouais, mais je reviens la semaine prochaine aussi, non?
Non, bah, vous revenez tous les jours, si vous voulez. Vous venez tous les jours à la matinale et puis nous parler. Bah, c'était un plaisir en tout cas de vous recevoir. Merci Justine d'avoir mené ce Zoom et cet entretien.
Merci.
On marque une petite pause musicale. On se retrouve tout juste après. On va écouter No Love de Carmen.
Où est le paradis? Je suis perdu dans le charme. Fait qu'une pétasse qu'a plus de forme, plus de forme. Je me suis levé avant la scène, avant chaud. Je suis pas parti juste pour remplir le bec de tout ce que j'ai. Je suis sorti en voir une autre. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je suis sorti en voir une autre. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Calling baby, si tu veux, vas-y, slowly baby. J'aime ton pétard atomique baby. Rentre les lumières du club dans son monde. Fais la danse for me baby. Même s'il y a no love quand je termine baby. Même s'il y a no love quand je termine, yeah. Jamais dans mon rang, ma grande no love. J't'ai rayé comme j'ai rayé la loque. J'mets trop de temps à m'attacher. J'ai quelques secondes à m'arracher. Jamais dans mon rang, ma grande no love. Avant que tu fasses du mal à un de nous, j'suis sorti en voir une autre.
Amour, le mien m'est ouachata, la quiero escuchar.
Et j'suis sorti en voir une autre. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Et j'suis sorti en voir une autre. Je refais, j'ai de l'or, de l'argent. Je refais, comme un latino de Cali. J'aime son bec, comme celui de la bouquet. J'ai un peu de voir, et quand je viens j'ai tout. Je laisse mon cœur à la maison. Je parle de toi dans n'importe quel son. L'amour est passé comme les saisons. Et je suis sorti en voir une autre. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Et je suis sorti en voir une autre. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non.
Non,
Et bah, vous avez écouté No Love de Carmen. C'était un plaisir de l'écouter d'ailleurs. C'était très sympa. Ça a changé de la première musique. Bref, mes choix musicaux ne regardent que moi. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique libre de Anna.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
C'est à toi, Anna.
C'est parti. Alors, dimanche dernier, j'étais à la manif pour le droit des femmes. Et je me suis demandé depuis combien de temps existait-il une inégalité entre les hommes et les femmes. Ça m'intriguait de savoir si même les femmes des cavernes recevaient moins de mammouths que les hommes, alors qu'elles en avaient tué autant, ou si elles se prenaient aussi de remarques sur leur pilosité ou leur situation amoureuse. Alors aujourd'hui, j'ai une question simple. D'où vient le patriarcat? Parce que si on écoute certaines personnes, la réponse est évidente. Ça a toujours été comme ça, ou encore, c'est génétique. D'après eux, les hommes chassaient, les femmes cueillaient, et tout le monde rentrait à la grotte bien content. Sauf que les historiens commencent à avoir un petit problème avec cette version. En 1878, par exemple, des scientifiques découvrent à Birka, en Suède, une tombe datant du Xe siècle. À l'intérieur, un véritable arsenal. Épées, haches, lances, flèches et même deux chevaux sacrifiés. Bref, l'équipement complet d'un grand guerrier. Donc les chercheurs vont noter sur leur petit carnet « guerrier ». Petit détail, on découvre en fait en 2017 que le squelette était celui d'une femme, la guerrière de Birka. Et ce n'est pas un cas isolé. En réexaminant d'autres sépultures, les scientifiques ont réalisé que plusieurs individus enterrés avec des armes de chasse qu'on avait automatiquement classés comme des hommes étaient en réalité des femmes. Pourquoi l'erreur? Tiens donc. Eh bien parce que pendant longtemps, les historiens étaient uniquement des hommes et regardaient le passé avec leurs stéréotypes bien ancrés dans leurs recherches. Un squelette avec une arme, homme. Un squelette avec des bijoux, femme. Alors qu'en réalité, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, celles qui ont occupé la plus grande partie de l'histoire humaine, étaient souvent beaucoup plus égalitaires. Le genre n'était pas du tout central dans la construction de leur société. Que tu sois une femme ou un homme n'avait pas une grande importance. Il fallait surtout manger, se reproduire et survivre. L'archéologue Maria Gimbutas avançait même que la société était matriarcale, ou plutôt matrilinéaire, car la femme n'avait pas une supériorité sur l'homme, mais une responsabilité majeure. C'est grâce à elle et à leur don de donner la vie que l'humanité pouvait être perpétuée et donc survivre. Aujourd'hui, cette hypothèse est remise en question, mais pas complètement écartée. Alors quand est-ce qu'on a basculé et que c'est devenu la grosse merde? Eh bien, le philosophe Engels explique qu'il y a environ 10 000 ans, on invente un truc qui va tout changer, l'agriculture. Et plus particulièrement, le moment où on commence à produire plus qu'on en a besoin. Avec l'agriculture arrivent deux concepts révolutionnaires, la propriété et l'héritage. Parce que quand on possède des terres, des troupeaux ou des réserves de nourriture, on veut savoir à qui tout ça va revenir et ainsi protéger nos ressources. Et là, problème. Pour transmettre ses biens à son enfant, il faut être sûr que cet enfant est bien le sien et qu'il n'y aura pas d'autres prétendants à l'héritage qui viendraient éclater ou voler le jackpot. C'est à ce moment-là qu'on commence à mettre en place toute une série de règles. Mariage, monogamie imposée aux femmes, contrôle des sexualités. Le pouvoir familial, économique et politique se concentre alors autour des hommes. Les chefs de famille deviennent des patriarches, les rois deviennent des pères symboliques du peuple. C'est ce système qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat. Ah. Littéralement, le pouvoir des pères. Petit à petit, les femmes sont davantage assignées à la sphère domestique et leur mobilité est limitée. Non seulement pour des excuses morales, mais surtout pour des raisons économiques. Un nouveau système se met alors en place où le pouvoir se transmet de père en fils et où les femmes deviennent progressivement celles qu'on doit contrôler pour que la transmission fonctionne. Mais il y a une chose qui est très importante à retenir dans cette histoire. C'est toujours la faute du capitalisme. Non. Et si le patriarcat apparaît à un moment précis, c'est surtout qu'il n'a pas toujours existé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que si quelque chose a été construit, alors ça veut dire qu'on peut le déconstruire et le transformer. Si vous voulez en savoir plus, il y a un excellent reportage sur Arte qui s'appelle « Femmes et hommes ont-ils jamais été égaux ?» et une très bonne vidéo de la créatrice de contenu, Grande Bavardeuse, je vous conseille.
Merci beaucoup Anna, c'était passionnant et je suis d'accord, si ça a été construit à un moment, on peut le déconstruire. C'est déjà la fin de cette matinale malheureusement. Alors ce soir au micro c'était Vladimir à la première interview au prof des Zooms, excusez-nous. Il a reçu Pierre-Paul Zalio, président du festival Printemps des Humanités, merci à eux. Justine était au deuxième Zoom, elle a reçu Sophie Poiret, responsable de communication et partenariat à la place pour la convention L2P. C'était Fabien pour le Flash Info, c'était Thomas et Anna pour les chroniques.
Merci.
C'était David et Renaud à la réalisation, merci à eux. C'était Mbiziane à l'animation, toujours moi. Et bien sûr, merci à Jeanne et Aude, les meilleurs de tout le service civique de Radio Campus de toute la Terre. L'équipe de la matinale de 19h bah, vous retrouve lundi, même heure. Demain, c'est vendredi et on va dormir. Bonne soirée sur Radio Campus Paris et puis à très très vite.